Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons bien, c'est-à-dire décortiqué ou essayé de bien poser et qui est le Fils de Dieu, comment parler de lui, vrai Dieu, vrai homme. Mais nous sommes rendus compte que l'histoire de la pensée chrétienne, l'histoire des conciles, montre la nécessité de voir comment la modalité d'être homme pour le Christ se joue, lui qui est pleinement Dieu, qui est un de la Trinité. Et nous pouvons nous rendre compte peut-être qu'il y a des réflexes, qu'en fait nous avons des réflexes qui nous conduisent à des erreurs. Pas des erreurs qui sont forcément voulues, mais qui, oui, je dis une sorte de, un peu de réflexe intellectuel, de ramener les choses à un niveau qui nous rassure, j'ai envie de dire. Et par exemple, si l'on demande à quelqu'un de croyant, pleinement croyant, finalement, au fond, l'âme du Christ, l'âme de Jésus, le Fils de Dieu, est-elle créée ou incréée ? Peut-être aurions-nous la surprise et de l'entendre dire « Non, ben forcément, elle n'est pas créée. » cela renvoie un peu à cette compréhension de ce Jésus-Christ, Verbe de Dieu, fait homme, et qui pourtant ne cesse pas d'être Dieu. On voit bien que c'est difficile de parler de lui.
C'est difficile. Et c'est pour cela que les expressions des conciles aident la mémoire, si vous voulez, à trouver de justes formulations pour pouvoir ne pas dérailler. Dire, par exemple, le Fils de Dieu communique à son humanité son propre mode d'exister personnel dans la Trinité, comme nous le soulignons avant, montre bien que de l'humanité, rien n'est enlevé. Mais c'est le mode qui envahit cette humanité, donc y compris l'âme qui est créée, qui a de réelles puissances intellectives, volitives, l'intelligence, la volonté, qui sont comme toute autre âme humaine créée, mais qui sont investies par la personne du Verbe qui fait qu'elle communique dans cette âme son mode propre d'exister personnel, celui-même de la Trinité. C'est très grand, c'est immense, et il faut sans cesse y revenir pour bien exprimer les choses et ne pas, je dirais, dérailler en pensant que l'âme humaine de Jésus serait comme une sorte de réalité qui pourrait presque disparaître, donc, comme si le corps était collé directement à la divinité, si vous voulez. On disait souvent dans les théologies alexandrines que l'on voyait logos sarx, c'est-à-dire le logos d'un côté, l'identité divine du Verbe, et puis accolé à lui la sarx, c'est-à-dire la chair, mais sans penser que quand on utilise le mot chair, c'est une façon d'exprimer la partie pour le tout. Dans la chair, il y a aussi l'âme, il y a toute l'identité humaine. Et saint Athanase, qui était de cette grande tendance logos sarx, eh bien ne perdait pas de vue que quand il disait la sarx, c'était une synecdote, c'est-à-dire on dit la partie pour le tout, c'est-à-dire quand je dis « et le Verbe s'est fait chair », je ne dis pas que le Verbe n'aurait pas eu une âme, si vous voulez, mais en disant la chair, je dis ce qu'il y a de plus visible, qui inclut bien sûr l'âme, et donc les puissances de l'âme. Cette âme humaine que le Fils de Dieu a assumée est douée d'une vraie connaissance humaine, donc que Jésus a vraiment pensé avec une capacité de connaissance humaine. Petit enfant, il a appris sur les genoux de sa maman les psaumes, il a appris les prières d'Israël, il a appris auprès de Joseph sans doute à manier un certain nombre d'outils, un certain nombre de choses, mais il a eu en extension la nécessité d'apprendre. Donc il y a une véritable connaissance humaine, ce qui fait que saint Luc dit très bien dans le début de son évangile qu'il a pu croître en sagesse, en taille et en grâce. C'est pas du faux dans l'extension humaine de cette humanité créée, donc de cette âme créée qui avait besoin d'apprendre, de connaître, hein, au niveau d'une science humaine, dira plus tard saint Thomas d'Aquin. Et c'est de l'ordre de l'extension. Au niveau de l'intensivité de l'intention, eh bien, tout était déjà donné de par le fait que le Verbe, eh bien, assumait cette âme humaine.
Alors peut-être aussi ça renvoie à une difficulté de parler, pour parler de l'âme, de comprendre l'âme, à la fois, comme on a pu l'évoquer dans d'autres échanges, il y a cette façon de tendre vers l'absorption, le Christ, enfin, on absorbe, on le fait absorber par l'humanité ou par la divinité, dans les deux cas on se trompe, on avait bien évoqué, il y a besoin de ce juste milieu.
Ce juste milieu qu'il faut sans cesse reprendre.
Alors, il y a ça qui peut poser
juste équilibre.
Où il y a la compréhension de ce qu'est l'âme en réalité pour l'homme, et donc du coup de perdre les pédales quand il s'agit du Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Surtout dans un monde, je dirais, philosophique qui a perdu le sens de l'âme. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est plus difficile, je dirais, à nos contemporains qui n'ont plus finalement de philosophie que ce que je dirais la réflexivité. L'intériorité, on en parle encore, de la réflexivité, cette capacité à ausculter intérieurement nos sentiments, nos pensées, etc. Ça, je dirais, c'est encore assez accessible, je dirais, à la pensée commune dans le monde médiatique, dans le monde des contemporains. On le voit encore, cette capacité à l'intériorisation. Mais de là à parler de l'âme, c'est très difficile. Beaucoup de personnes, au moment de la mort, ont l'impression que c'est fini. Et autant se débarrasser de ce corps et de faire une incinération, surtout pour ne plus entendre même parler du corps, c'est fini, c'est terminé. Et on ne veut plus voir la vérité de l'âme par rapport au corps. Nous avons un grand académicien qui a écrit un beau livre sur l'âme, et je crois que ça vaut le coup d'aller écouter ces grands académiciens qui ont fait l'expérience de l'âme. Ce Chinois qui est venu apprendre en France un français parfait et qui est devenu académicien, c'est quand même tout à fait extraordinaire, et qui écrit sur l'âme. Ça vaut le coup, je crois que ça peut être une bonne expérience philosophique pour pouvoir saisir notre propre âme et comprendre que le Christ, parce que vraiment homme, entièrement homme, a eu une âme.
Eh oui. Alors, quand on continue notre exploration du catéchisme, c'était le 472, là, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, et c'est vrai que je reprends en ayant les yeux qui tombent dessus cette phrase de Saint-Luc qui a l'air très anodine, mais finalement, cette croissance de Jésus, le fils de Marie et Joseph, cette croissance en sagesse, en taille et en grâce qui n'enferme pas l'enfant Jésus qui va grandir simplement dans cette réalité humaine, mais c'est toujours cette... On n'a jamais l'un sans l'autre lorsqu'il s'agit de parler de Jésus, cette croissance. C'est vrai que cette phrase est assez... quelque chose de touchant du point de vue spirituel, mais important du point de vue théologique, en réalité.
Oui, ça permet de mieux affirmer l'entière humanité de Jésus, qui a eu toutes les capacités comme les nôtres, corporelles et celles de l'âme, et que Jésus a accepté de vivre selon l'état de sa croissance et toujours assumé comme Verbe de Dieu. Il n'a jamais, laissé de côté cette identité divine et qui faisait qu'il grandissait en taille, en sagesse et en, en, en grâce aux yeux des hommes dans cette dimension donc d'extension nécessaire à sa vie humaine. Donc il a appris l'hébreu, il a appris l'araméen, il a probablement assez foris par les contacts que Joseph avait avec cette implantation grecque, connu aussi le grec, mais c'était nécessaire à sa vie. Et c'était nécessaire à ce grand dessein de salut, toujours, dont il était porteur, pour le propter nos, et propter nostram salutem. Jamais aucun acte de Jésus n'a perdu la finalité dans laquelle il était venu depuis le premier moment de sa conception.
Ce qui peut être étonnant, quand on voit la fin de cet article 472, c'est que l'autre citation, qui est Philippiens 2, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, donc là le verset 7, qui correspond à l'hymne aux Philippiens, l'abaissement du Christ, c'est que finalement, cette façon de parler de le Christ qui a revêtu notre humanité, on a cette vision de l'âme qui est haute, quelque chose de haut, effectivement, associé ici à cela, correspondait à la réalité de son abaissement volontaire, de la condition d'esclave. C'est sûr qu'on est toujours, du point de vue spirituel, quand on parle du Christ, on est toujours dans cette élévation, abaissement. Mais alors du coup, ça nous renvoie à nous, notre condition est une condition basse. En réalité, elle n'est pas, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes aux yeux de Dieu, d'une existence noble. Nous avons du prix aux yeux de Dieu
qui nous a créés. Et il y a ces expressions admirables, nous évoquions Saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Et déjà, Saint Irénée disait des paroles semblables. Hein, le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme afin de permettre au Fils de l'homme de devenir Fils de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire du don que Dieu nous fait dans sa condition d'esclave, dit l'Épître aux Philippiens. Il ne renonce en rien à sa condition de Dieu, à sa morphée théou, hein, tout en assumant pleinement cette morphée doulou, cette condition d'esclave, il ne renonce en rien à sa condition divine.
C'est vertigineux. Merci, frère Édouard. Oui.